c'est parti.
Avec un faux départ.
Coupe du monde de football 2018, Russie, qui sera l'équipe championne ? Que la meilleure équipe gagne. Coupe du monde, édition spéciale sur RFI Sport.
Comme un tir de Rocheteau qui s'écrase sur le poteau.
Êtes-vous un fournisseur de services ? Faites-vous partie de la communauté francophone ? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français ? Qu'est-ce que l'offre active en santé ? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo ? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo. Le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrants, femmes, jeunes, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Dimanche 24 2018, bienvenue madame, monsieur, à une émission spéciale Pride Toronto 2018. 2018, Fierté Toronto 2018. Émission spéciale en hommage aux militants LGBTQIA, où que vous soyez. Un moment de grande liberté pour ceux et celles qui vivent les LGBT-phobies au quotidien. Popourri Show, 30 ans déjà, jusqu'à 13h. L'ingénieur du son, DJ Devera, production et animation, votre serviteur Eric Kader, en compagnie du DJ Anne-Louise, live session, que voici. Aujourd'hui, madame, monsieur, je vous invite à jouer avec nous. Qui sait, vous courez la chance de gagner une bouteille de champagne Veuve Coquelicot, s'il vous plaît. En répondant à la question, savez-vous ce que veut dire le sigle LGBT ou LGBTQIA? Vous envoyez un message immédiatement pour pourri@cut.fm. Mais nous remercions déjà ceux et celles qui ont répondu tout au long de la semaine. Alain B, Gilles M, je pense que c'est Marchildon, n'est-ce pas? ML, Annick N, Anaïs, Herman, Khaled, Khaled, Gertrude, Joe, Chantal et Iman. Que le meilleur ou la meilleure gagne! Tirage au sort vers midi, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, des milliers de personnes vont défiler ce dimanche à Toronto. Moi, je suis au soleil, je ne sais pas où vous êtes en ce moment. Grande marche des fiertés LGBTQIA aujourd'hui dès 14h. Découvrez la programmation des activités communautaires et le parcours de ce 38e défilé, mesdames, messieurs. pride.toronto.com/parade ou encore www.francoqueer.ca. Oui, Francoqueer, l'organisme qui représente les intérêts des LGBT francophones de la région de Toronto et bien de la fête. Et oui, ils ont même un kiosque sur la rue Church aujourd'hui. Allez les voir, madame, monsieur. Et si vous avez des vœux à nous faire aujourd'hui, vous nous invitez, vous pouvez le faire en direct. Je pense que quelqu'un est en studio. Le numéro est le 416-946-7000. Je répète, 416-946-7000. Si vous désirez ou vous souhaitez faire un petit vœu à tous nos amis, nos auditeurs qui nous écoutent et l'équipe de la radio CUT-FM, 30 ans déjà. Nous sommes au service de cette communauté belle, diverse. Ah oui, et si vous avez des questions, vous voulez nous partager vos projets, vos expériences, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, en toute confidentialité bien sûr, popourri@cut.fm. DJ Devera, est-ce que ça va bien de l'autre côté? Alors aujourd'hui, ce dimanche, spécial cocktail party tout au long de la journée, aux couleurs de Toronto Pride, bien sûr, fierté Toronto oblige. Nos invités, des artistes, des jeunes, des DJ, Mado la drag queen, la plus populaire de Montréal, peut-être même de la planète, nous dit-on. Tour d'horizon des droits LGBT dans le monde. Attention, danger, quels sont les pays à éviter absolument si vous êtes de la communauté LGBTQIA. Transsexualité, on en parle beaucoup ces temps-ci, surtout dans nos écoles, sur nos campus universitaires. Transidentité, pourquoi ils veulent changer de sexe. Les transgenres dans le miroir médiatique, débat, qui fait toujours rage un peu partout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la diversité des genres? Eh ouais. Et marche des fiertés 2018 à travers le monde, manifestation anti-LGBT malheureusement dans certains pays, mais menace de mort, je dis bien menace de mort, un membre ou encore des membres du collectif Arc-en-Ciel à l'île Maurice, Depuis le 2 juin dernier, l'île Maurice a fait face à des menaces à la bombe, alors que les autorités mauriciennes font la sourde oreille. Encore une fois, découvrez notre programmation complète. Allez sur le site www.cut.fm ou www.popourishow.com. Vous aurez tous les détails. Franco Queer, encore une fois, je vous rappelle, vous donne rendez-vous ce dimanche à son kiosque sur la rue Church. Cette émission est réalisée avec le soutien et en partenariat avec des acteurs, des actrices engagées dans les enjeux de santé des personnes LGBT. Et toute l'équipe de Popourri Show et CUT FM vous souhaite une merveilleuse fête de fierté 2018. DJ Anne-Louis, live sessions dans Popourri Show spécial Toronto Pride 2018 jusqu'à 13h.
This is DJ Anne-Louise live session on CIUT 89.5 FM. Special popular show. Happy Friday. Fierté Toronto 2018, émission spéciale en hommage aux militants LGBTQIA. Qu'ils soient là, qu'ils ne soient plus là, un moment de grande liberté pour ceux et celles qui vivent encore, malheureusement, les LGBT-phobies au quotidien, au Canada, à Toronto et dans le monde. Et oui, la nouvelle loi canadienne protégeant les transgenres est très très claire et explicite. Les transgenres et les personnes d'autres identités sexuelles ont le droit de vivre sans subir de discrimination, de propagande haineuse ou de crimes haineux partout au Canada. Personne ne devrait se faire refuser un emploi, être désavantagé sur les lieux de son travail, être incapable d'obtenir des services ou être la cible de harcèlement, de violence en raison de son identité de genre ou de son expression de genre. Mais d'abord, que signifie être transgenre? La question du genre est particulièrement épineuse. En ce sens, on considère encore souvent, fermement, qu'il n'existe que deux genres, l'homme et la femme. La langue française même n'est pas faite pour laisser la place à d'autres genres. Et pourtant, les scientifiques ont découvert qu'il n'existait pas deux sexes, mais 48. C'est-à-dire qu'entre l'homme à 100% et la femme à 100%, il existerait environ 46 intersexuation. Chaque personne serait elle-même constituée entre 10 et 40% des marqueurs biologiques de l'autre sexe. Il y a beaucoup d'a priori sur l'identité de genre. Vous vous demandez ce qu'est être transgenre. Il est important de bien le comprendre pour ne plus alimenter l'intolérance. Pour comprendre les notions de genre, de sexe et d'identité, il est important de redéfinir des concepts de base que l'on a parfois tendance à mélanger. Il y a en effet trois réalités à propos du sexe et de l'identité qui ne sont pas liées, mais qui sont souvent confondues. Premièrement, les attributs sexuels. Ils n'ont aucun lien avec l'identité. Tout sexe peut cohabiter avec toute identité. Deuxièmement, l'identité, c'est la personne que l'on est indépendamment de ses attributs sexuels. Et troisièmement, la sexualité. Elle n'est liée ni au genre, ni au corps. Le Canada n'est pas le premier pays à vouloir protéger les transgenres contre la discrimination. 15 autres pays ont adopté ou sont en voie d'adopter des lois similaires depuis 2003. Ces pays se trouvent surtout en Europe et en Amérique du Sud. Le Japon, c'était en 2003, le Royaume-Uni en 2004, l'Espagne en 2007, l'Uruguay en 2009, l'Argentine en 2012... Le Danemark en 2014, Malte en 2015, la Colombie en 2015, l'Irlande en 2015, le Vietnam en 2015, l'Équateur en 2016, la Bolivie, projet de loi est en débat en ce moment, au Chili, la Costa Rica et la Norvège. Aux États-Unis, je vous rappelle, cette question relève de la juridiction des États
Jusqu'à maintenant, 20 États sur 60, dont New York et la Californie, ont adopté de telles lois. Nous allons entendre un témoignage, premier témoignage de cette émission, madame, monsieur, d'un jeune trans qui vit à Bordeaux, à Paris, en France plutôt, et son nom est Yaël. Témoignage.
Alors, je m'appelle Yaël, j'ai 23 ans. J'ai fait mon coming out il y a 6 ans de ça. À l'époque, je vivais chez mes parents. Donc mes parents l'ont très mal pris. Du coup, je suis parti sur Bordeaux, un peu au hasard. Et je me suis retrouvé au refuge de Bordeaux. Donc j'y suis maintenant depuis un an. Quand j'étais au collège, ça se passait relativement bien parce que tout le monde me considérait comme un garçon manqué. Donc ça allait, du coup. Mais après, je leur avais pas dit que j'étais trans. Donc je l'ai gardé pour moi. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai décidé de l'annoncer à mes camarades. Donc sur le coup, à cette époque-là, j'étais dans un petit groupe d'amis. Donc ça allait, parce qu'on s'entendait très très bien. Quand je leur ai annoncé, ça a posé aucun souci. Par contre, quand je l'ai annoncé à mes professeurs, etc., ils ont appelé mes parents. Du coup, mes parents ont tout nié en bloc. Donc c'est là que la galère a commencé, disons. En fait, mes professeurs m'appelaient toujours au féminin. À chaque fois qu'un de mes camarades m'appelait au masculin, il les reprenait. Donc c'était assez dur à vivre. Après, j'ai jamais eu de problème d'insultes ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu de la chance parce que j'étais dans un petit lycée de campagne pourtant. Donc j'ai vraiment eu de la chance de ce côté-là. Et après, j'ai arrêté ma scolarité au lycée. Donc j'ai pas pu voir si par la suite ça se serait mieux passé ou pas. Alors j'ai d'abord été au Gyrophare. J'ai pu aller à Trans 3. Donc ils m'ont énormément aidé parce que je venais juste d'arriver sur Bordeaux en fait. Et j'ai rencontré Jeanne et toute son équipe. Et ils m'ont aidé à m'assumer réellement et à commencer les démarches aussi. J'ai eu énormément de conseils de leur part. J'y allais tous les mois à peu près pour échanger avec eux, pour discuter. Trans 3, c'est une association qui aide les personnes transgenres. Donc, qui donne des conseils pour les démarches à suivre, qui aide pour la vie de tous les jours, en fait. On peut discuter ensemble de tout et n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête concernant les questions de transition, etc. Et le fait de rencontrer des personnes, en fait, dans un cadre où on sait qu'on est respecté, que la tolérance, c'est le mot principal, on va dire. On se retrouve en petits groupes et on discute de toutes les questions qu'on peut avoir sur la question du genre. Et en fait, on peut avoir des questions concernant les démarches à suivre pour entamer une transition, pour gérer une transition aussi. En général, c'est des difficultés de tolérance. C'est-à-dire que les gens acceptent les personnes trans, mais surtout pas chez elles. Donc en général, ça pose un sérieux souci. Et après, c'est toujours une question de respect, en fait. Quand on rencontre une nouvelle personne, on pense trop peu souvent à lui demander si c'est un garçon ou une fille, etc. Et on se base tout de suite sur son genre assigné à la naissance et... Ça, c'est un réel problème, je trouve. Alors, quand on est mineur, c'est encore plus difficile parce qu'il faut l'accord des parents. Donc, en général, entamer une transition quand on est mineur, on a intérêt à avoir un bon entourage autour de soi qui est d'accord, qui est partant pour nous accompagner. Et je pense que la difficulté en France aussi, c'est que si on veut être suivi, c'est par une équipe officielle. Et l'équipe officielle, à ma connaissance, ils prennent pas les mineurs. Donc ça, c'est un problème, parce qu'il faut obligatoirement attendre d'être majeur pour être pris en charge. Et l'équipe officielle, personnellement, j'en ai pas entendu que du bien. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter vers un parcours privé. En privé, en fait, c'est à nous de trouver le psychiatre et l'endocrinologue. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un psychiatre à Pau et un endocrinologue à Toulouse. Et alors qu'en public, en fait, on est suivi donc par un parcours officiel, par une équipe officielle, pardon. Et en fait, là, tous les médecins sont regroupés à Bordeaux. Donc il y a un psychiatre, un endocrinologue sur Bordeaux, et ils nous suivent tout le long du parcours jusqu'aux opérations. Donc si je pouvais donner un conseil, ce serait de bien s'entourer. Donc de ne pas hésiter à aller dans des associations, de rencontrer un maximum de personnes safe, c'est-à-dire qui sont tolérantes et ouvertes.
Je
appelle à ton souvenir.
Ai, maman, voilà le voile.
Adra ben la cosa, ding et dong.
Non,
ding et dong.
Écoutez la planète chanter.
CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Au sein d'une partie de la population de notre pays, il est des lieux où être homosexuel peut se révéler dangereux, comme dans plusieurs cités de banlieue où la plupart des homosexuels doivent se cacher.
Rouge pour la vie, orange pour la guérison, jaune pour le soleil, vert pour la nature, bleu pour la folie, violet. On est tous égaux. Va falloir ouvrir les yeux. Ok, écoute. J'ai pris le mal pour qu'on se mette d'accord de vous à moi. Je vote qu'à nous ne prenne au désaccord que juge. Et encore moins se foutre dehors. Pour une histoire de race, de sexe ou de religion, d'accord. Des discriminations, tort. Ce texte, c'est sur un peuple qui en aucun cas a tort. Un peuple libre, égaux en droit d'après les droits de l'homme. Une vague d'amour, une marée de sentiments. L'amour qu'on porte à celle qu'on aime, telle une mère à son enfant. Un quotidien éliminé par les couleurs de l'arc-en-ciel. Du bonheur à poison et ses sincérités, je t'aime. C'est comme une figure dans les veines. L'instant présent se révèle être une dépendance. Parce qu'il suffit d'un quart pour habiller la romance. Et plus ça dure, plus ça commence. Y'a ces sincérités qui donnent envie d'arrêter le temps. De faire taire les gens qui parlent en critiquant. Sexe double F. Une meuf avec une meuf, il fait un peu complexe. Qui de nos jours font foisonner les bluffs. Trop peu l'acceptent, mais peu le comprennent.
Et oui, madame, monsieur, qui sera l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de cette bouteille de champagne que j'ai devant moi, veuve Clicquot? Répondez à la question, savez-vous ce que veut dire le sigle LGBTQIA? Et merci à Alain, Gilles, Annick, Anaïs, Khaled, Gertrude, Joe et Chantal. Vous pouvez nous appeler aussi si vous le désirez. Il y a quelqu'un qui est en studio. Ah oui, sur le campus de l'Université de Toronto, en direct de Hard House Studio, l'Université de Toronto, la radio CUT FM. D'ailleurs, merci hein, pour tous vos dons. Nous sommes presque rendus à 55 000, je pense, de dollars. Il nous reste 5 000 encore pour atteindre l'objectif visé cette année. 60 000 dollars. Et je vous rappelle qu'il y a un voyage pour deux à Costa Rica. Le numéro encore en studio est le 416-946-7000. Ou encore envoyez-nous un message si vous avez des vœux ou vous avez des activités à nous proposer. C'est le pot.pot pourri, oui, potpourri, @cut.fm. Dans un instant, je vais vous donner quelques nouvelles de ce qui se passe à Toronto et nos partenaires aussi. Ne partez pas, une émission spéciale aujourd'hui dans le cadre de Fierté Toronto 2018.
On est meurt des collisions courant des pays constatés que rien ne fait bouger les opinions. Ouvrez les yeux tant que c'est encore possible. Le sexe, la religion sont bientôt pris pour cible. Lâchez vos convictions, enfants d'une même nation, enfants d'un même monde.
Ouvrez les yeux.
Rouge pour la vie, orange pour la guérison, jaune pour le soleil, vert pour la nature, bleu pour la bonne violet, pour l'esprit communauté. La tête dans l'arc-en-ciel. 0-0-0
Spécial en hommage aux militants LGBTQIA, où que vous soyez à travers le monde, Popurucho vous rend hommage. Un moment de grande liberté pour ceux et celles qui vivent, malheureusement, les LGBT-phobies au quotidien. Et oui, des centaines de personnes ont défilé dans les rues du centre-ville de Toronto vendredi soir à l'occasion de la Trans Pride March, marche de la fierté trans, en solidarité avec la communauté des personnes transgenres. Nikki Ward, la directrice de l'association du quartier Church Wellesley, où se trouve le village gay de Toronto, a aidé à organiser la première marche de la fierté trans en 2009. Et elle raconte que jusqu'en 2013, l'événement n'était pas appuyé par Pride Toronto, qui chapeaute les célébrations de la fierté gay dans la ville reine. Donc, c'est un gain, je dirais, pour les personnes transgenres. Les droits des personnes transgenres au Canada sont inscrits dans la loi depuis que le Sénat canadien a voté une loi il y a un peu plus d'un an pour rajouter l'identité de genre et l'expression de genre à la loi canadienne sur les droits de la personne et au code criminel. En vertu de la loi, il est désormais illégal de discriminer sur la base de l'identité ou l'expression de genre. Et puis, comme l'an dernier, le consulat général de France à Toronto participera au sein d'une délégation européenne composée de 5 pays. Aujourd'hui, à 14h, à cette grande marche, grand défilé, Pride, Toronto, Fierté, Gay Toronto, le consulat général de France y participe au sein d'une délégation européenne avec 4 autres pays, dont l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède. La lutte contre les violations des droits de l'homme fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre est l'une des priorités de la politique étrangère de la France. Cette participation souligne aussi l'engagement de la France et du Consulat général de France à Toronto dans la lutte contre la stigmatisation et les violations graves des droits de l'homme dont de nombreuses personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées continuent d'être victimes partout dans le monde. Et oui, quelle place dans le monde du travail lorsqu'on est une femme transgenre? La discrimination à l'endroit des minorités sexuelles est encore fréquente au Canada, notamment lors de la recherche d'emploi. Incursion dans le quotidien d'une femme transgenre qui n'arrive pas à se trouver de travail depuis qu'elle a commencé à vivre publiquement sous les traits du sexe opposé. Je vous rappelle qu'à l'échelle du pays, on recense beaucoup de cas de discrimination dans les milieux de travail concernant les personnes trans. Une étude ontarienne publiée en 2011 sur la question, près de 13% des répondants estiment avoir perdu leur emploi uniquement en raison de leur identité de genre, alors que 12% d'entre eux pensent que cette identité a pu avoir une incidence sur leur trajectoire professionnelle. Une vingtaine d'employeurs ont participé au Salon de l'emploi pour les personnes transgenres et non-binaires à Toronto l'année dernière. C'était un vrai succès. L'événement Trans Workforce, une première au pays, était organisé par Biko Bota, une réfugiée transgenre du Kenya. Elle veut ultimement amener un changement systémique dans les milieux de travail. Elle affirme qu'il existe encore de la discrimination à l'embauche et que souvent, comme des personnes transgenres ont de la difficulté à décrocher des postes conventionnels, certains se tournent vers le trafic de drogue ou l'industrie du sexe. Elle admet avoir elle-même travaillé comme prostituée parce que personne ne voulait l'embaucher. Parmi les Ontariens transgenres, je vous rappelle que 75% disent avoir vécu de la discrimination dans leur milieu de travail. 50% croient ne pas avoir obtenu un emploi parce qu'ils sont transgenres. Et 28% croient avoir été congédiés parce qu'ils sont transgenres. Selon le sondage pancanadien intitulé « Valeurs, besoins et réalités des personnes LGBT au Canada en 2017 », donc l'année dernière, réalisé pour la Fondation Jasmin Roy, c'est dans la province de l'Ontario qu'on trouve la plus forte proportion des répondants qui estiment que certains groupes LGBT entretiennent des préjugés à l'égard d'autres groupes de cette même communauté. Et deuxième témoignage, maintenant, nous allons entendre le parcours d'un jeune transgenre. C'est tout un défi pour une famille américaine. Reportage.
À 7 ans, Jacob s'amuse dans sa salle de jeu, comme n'importe quel garçon de son âge. Mais il est né dans un corps de fille. Joyeuse et sans problème, Mia, comme ses parents l'appelaient alors, change de comportement vers 2 ans et demi. L'enfant refuse de porter des vêtements de fille et demande qu'on l'appelle par des prénoms de garçon. Mia est régulièrement prise de colère et la communication devient difficile. À l'époque, ses parents pensent que leur enfant traverse une phase.
Je n'avais jamais imaginé qu'un enfant puisse être transgenre.
Pourtant, au fil du temps, le comportement de Mia ne change pas et après une longue et douloureuse réflexion, ses parents décident d'agir.
En voyant qu'il n'avait pas changé d'avis, on a finalement décidé de regarder et d'écouter notre enfant. Il disait que c'était ce qu'il était et qu'il n'était pas heureux d'être une fille.
Après avoir consulté des professionnels de santé, Mimi et Joe laissent Jacob choisir son nouveau nom et vivre sa vie de garçon, en privé comme en public. Il n'existe pas vraiment d'études sur le nombre d'enfants transgenres. Mais la question s'est récemment retrouvée au cœur de l'actualité aux États-Unis. Des élus républicains ont demandé d'interdire l'utilisation de toilettes du sexe opposé à celui inscrit sur l'acte de naissance. Aujourd'hui, les parents de Jacob veulent témoigner, car ils se sont souvent sentis seuls face à ces choix difficiles.
C'est pour ça que nous partageons notre histoire, pour que d'autres familles qui vivraient quelque chose de similaire sachent qu'il est possible d'aider un enfant dans cette transition. Et que ce soit un succès.
Joe et Mimi ont beaucoup été critiqués, mais pour eux, ignorer les besoins de leur enfant, c'était courir un gros risque au vu des statistiques.
Il y a un taux de tentative de suicide de 50% pour les enfants transgenres de moins de 20 ans. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour mon enfant et pour n'importe quel enfant.
Quant à Jacob, il a un message pour les autres enfants.
Je veux vous dire, soyez vous-même.
Et oui, mesdames, messieurs, le cocktail party se poursuit ici à Toronto sur CUT 89,5 FM, bien sûr aux couleurs de Toronto Pride 2018. J'aimerais rapidement vous donner des buzz de nos médias partenaires. Non, j'ai pas le temps, mais d'abord et avant tout, voyons un peu les transgenres dans le miroir médiatique. Lors d'une émission que j'aime beaucoup, ça commence aujourd'hui en France. Voyons les transgenres. Peut-on trouver l'amour quand on est transgenre ? Reportage.
Bonjour à tous et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être au rendez-vous de cette émission importante aujourd'hui. Bonjour Laure et Jonathan.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu nous livrer ce message d'amour et de tolérance. On va s'intéresser à vos histoires. Je voudrais aussi qu'on accueille Lucie et Jonathan. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes également transgenre, comme Laure. Et vous aussi, vous allez nous livrer des témoignages très forts sur votre combat pour changer de sexe, mais aussi, puisque c'est notre thème d'aujourd'hui, votre combat pour votre vie de couple, pour l'amour. Lucie, vous êtes en couple ?
Oui.
Avec Fabrice, qu'on embrasse. Et Jonathan, vous êtes à la recherche de l'amour.
Tout à fait.
Alors, vous allez nous raconter toutes vos histoires. Je voudrais qu'on accueille le docteur Sarah Christofari, qui est chirurgienne spécialisée en réassignation sexuelle. Bienvenue. On va avoir besoin de vous pour comprendre toutes ces étapes que nos invités ont traversées. Et Joseph Agostini, qui est psychologue clinicien, qui va nous parler des étapes psychologiques de nos invités. Bonjour Jean-Philippe Doux.
Christine, bonjour.
On se retrouve tout à l'heure pour la séquence questions-réponses. Alors, Laure. Il y a quelques années, vous étiez un jeune homme, ou plutôt une jeune femme dans un corps d'homme. C'est important de mettre cette nuance, je sais que c'est important. Et vous êtes en couple avec Jonathan.
Oui, c'est ça.
Depuis combien de temps?
Ça va faire bientôt un an.
Vous êtes d'accord sur ce
on
point?
On est d'accord, oui. C'est pas mal. Pas de souci.
Est-ce que vous connaissiez, Jonathan, l'histoire de Laure avant de tomber amoureux d'elle? Vous saviez qu'elle était transgenre?
Oui, tout à fait. Je l'ai contactée pour réaliser une émission de web radio, parce que je fais de la web radio, sur la transidentité. Donc, je suis tombé sur son profil en faisant des recherches.
Et donc, vous êtes tombé sur le témoignage de Laure.
Voilà, c'est ça.
Et ça vous a touché.
Voilà.
En fait, on a discuté un peu sur Internet. Ouais. Et ensuite, il m'a proposé qu'on se rencontre avec une autre personne de l'émission pour discuter de comment allait se passer l'émission de radio.
Donc, vous êtes rencontrés?
En fait, j'étais déjà en couple à l'époque, donc c'est pour ça aussi que j'étais pas non plus dans l'optique de
d'une
recherche
avec une
sentimentale.
Femme.
Oui.
D'accord.
Moi aussi, à ce moment-là, j'étais en couple, donc parce qu'on s'est rencontrés, c'était juste pour l'émission. Il n'y avait pas de but derrière.
Il n'y a pas
derrière.
De sous-entendu.
En couple avec un homme?
Non. À ce moment-là, j'étais en couple avec une femme.
Qui a craqué sur l'autre?
Oui. c'est moi.
Et donc on s'est revus plusieurs fois, enfin on a sympathisé et on est devenu vraiment amis, mais il n'y avait aucun but derrière à ce moment-là, enfin on avait chacun nos relations.
Ouais.
Moi c'était un peu dans une relation qui se terminait un peu, c'était un peu compliqué, mais je cherchais pas derrière.
Vous étiez attiré par les femmes ou par les hommes, vous?
En fait moi j'ai pas d'importance, j'aime les deux en fait.
D'accord, vous êtes bisexuel?
Oui.
D'accord, très bien, ok. À quel moment vous vous êtes rapprochés tous les deux alors?
Alors en fait, moi à la fin de ma relation, ça a été un peu dur. On s'est quand même séparés en bons termes. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un peu plus sympathisé.
Parce que j'étais aussi en fin de relation, précisé. Et du coup, il y a eu aussi toute une période où on se voyait, mais on était plus ou moins confidents l'un de l'autre. On se parlait de ce qui n'allait pas dans nos couples et tout ça. Et on a pas mal de passions communes, tout ça. Mais je me demandais si, inconsciemment, c'était pas... sa condition qui m'attirait.
Oui, curiosité.
Une curiosité, oui. Mais c'est pas du tout le cas. Enfin, on a passé du temps ensemble.
Et alors, comment vous avez pu faire la différence, justement, et
en me rendant compte que j'avais vraiment des sentiments et que c'était pas juste... on passait des bons moments ensemble, je pense.
disons qu'il y a un moment où on a passé un peu le stade d'amis, on s'est rapprochés, enfin... Au début, il était quand même vachement confident avec moi. Et puis après, je me suis senti à l'aise avec lui. Enfin, on s'est senti bien. Et à un moment, on a senti que tous les deux, on ressentait quelque chose l'un pour l'autre. Et...
une histoire d'amour, quoi.
Voilà.
Voilà. Classique.
Vous en étiez où de votre transition?
Alors moi, j'avais déjà suivi un traitement hormonal.
D'accord.
Donc, j'avais pas encore fait d'opération. Mais j'avais déjà changé physiquement avec les hormones.
Et est venue donc la question de l'intimité. Et vous avez des appréhensions tous les deux?
C'était plus de mon côté où moi, avec ma dysphorie, je me cachais. J'avais, au niveau du bas, je me cachais tout le temps. J'étais pas à l'aise. Et c'est plus lui qui m'a rassuré, qui m'a mis à l'aise, qui m'a dit c'est bon. Enfin, moi, je m'en fiche. Je t'aime comme t'es. Mais détends-toi. Enfin, je te jure, ça change rien.
Il n'y a aucun souci.
Oui, voilà.
Ça ne vous a pas, au-delà de l'amour que vous lui portez, ça ne vous a pas du tout bloqué ou fait un petit peu peur?
Ça m'a fait peur au début, mais un peu comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la curiosité. En fait, au début, j'avais un peu peur d'avoir un peu peut-être une réaction de rejet, parce que je me suis dit, ok, j'ai des sentiments pour la personne, mais peut-être qu'en allant plus loin, je vais avoir une réaction un peu que je voudrais pas avoir, en fait. Mais au final, dans l'intimité, tout s'est bien passé. Et je me suis dit, en fait, tout ça pour ça, quoi. Il n'y a pas, y a aucun souci à avoir.
Vous vous êtes posé, du coup, des questions sur votre propre sexualité?
Non, ça, clairement pas. Vu que, je l'ai toujours considéré comme une femme et je me suis toujours considéré comme hétéro, donc non.
Vous avez quel âge aujourd'hui?
J'ai 25 ans.
25 ans. Ça date de quand, cette première sensation d'être profondément une femme?
En fait, c'est depuis que je suis jeune, je me suis sentie différente. Quand j'étais jeune, j'ai souvent senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'allais souvent essayer les robes de ma mère, des choses comme ça. Et je ne savais pas ce que c'était, en fait, parce que quand j'étais jeune, je n'ai pas forcément tout de suite vu une émission sur la transidentité, des choses comme ça. Donc au début, je me suis posé beaucoup de questions, qu'est-ce que c'était. Et en grandissant, j'ai mis le doigt dessus et je me suis dit, voilà, c'est ça, je me sens femme. Je me suis toujours sentie femme, mais avant, j'avais du mal à mettre
des mots dessus. Ça s'est passé comment à l'adolescence?
Ça a été assez dur pour moi parce que j'avais l'impression de porter un masque, en fait. Toujours montrer une identité qui n'est pas la mienne, me comporter comme un tel désir. Et ça n'a pas été facile parce que, par exemple, par rapport à ma sexualité, en tant que bisexuel, j'étais autant attiré par les garçons que par les filles. Et au niveau des garçons, ils me rejetaient plus. Donc j'ai vraiment attendu qu'ils me voient en tant que femme, d'avoir fait ma transition pour enfin sortir avec des hommes. Mmh. Et les femmes, j'ai trouvé que c'était un peu plus... elles étaient un peu plus ouvertes d'esprit. Donc j'ai essayé de chercher un modèle à travers... mon ex, ça, pour m'aider à transitionner.
Vous l'avez trouvé?
En fait, disons qu'elle m'a bien accompagnée pendant ma transition. Ouais. Elle m'a donné
les clés.
Elle m'a donné les clés, voilà.
Elle vous a donné les clés. Vous, Lucie?
Bienvenue, madame, monsieur, à Fierté Toronto, Pride Toronto, welcome on board. Émission spéciale en hommage aux militants LGBTQI aujourd'hui. Et spécial hommage surtout aux personnes transgenres tout au long de cette émission. Qu'est-ce que c'est la transsexualité, transidentité? Pourquoi ils veulent ou elles veulent changer de sexe? Et les transgenres dans le miroir médiatique. Dans un instant, nous allons faire notre tirage au sort. Qui sera l'heureux gagnant, l'heureuse gagnante de cette bouteille de champagne que j'ai en face de moi? Bouteille de champagne Veuve Clicquot. Savez-vous ce que veut dire le sigle LGBTQIA? Popourri@cut.fm ou 416-946-7000. Et bonne fierté à tout le monde. Et rapidement, les buzz de nos médias partenaires LGBT à travers le monde. En France, les lesbiennes peinent à faire entendre leur voix 5 ans après le mariage pour tous. Alors que les gays ont gagné en visibilité, les lesbiennes restent dans l'ombre. Une volonté de se fondre dans le décor, car être femme et lesbienne, pour certaines, c'est la double peine. Coupe du Monde 2018, les supporters anglais inquiets de discrimination homophobe et raciste. Les craintes d'agression ont fait l'objet d'un rapport parlementaire au Royaume-Uni après la publication d'un guide pour la diversité à destination des supporters. Coupe du Monde 2018 en Russie, il fallait s'y attendre, mes amis. Les bisexuels et les pansexuels voudraient sortir de l'ombre. Ces personnes qui ont des relations amoureuses, indifféremment avec des hommes ou des femmes, sont la cible de préjugés et de discrimination. Changement d'état civil pour les trans, on doit encore passer devant un juge, c'est humiliant. Dans certains pays d'Europe, s'ils peuvent adapter leur état civil à leur identité sans avoir à subir de stérilisation forcée, les transgenres doivent encore se justifier devant un tribunal. Et un projet de maison de retraite LGBT pour ne pas retourner au placard. Eh oui, c'est un projet fort intéressant. À Montréal, Berlin, Stockholm ou New York, des maisons de retraite s'adressent à un public homosexuel, bisexuel et transgenre. La ville de Paris aura pour la première fois un char à la marche des fiertés. Sur proposition du groupe écologiste, la ville de Paris s'est engagée à être représentée à la marche des fiertés pour la présence d'un char dès l'édition 2018 qui aura lieu le 30 juin prochain. De nombreux actionnaires relancent le magazine français Têtu pour sa nouvelle version. Le titre apparaîtra à un rythme trimestriel et développera les nouvelles écritures multimédia, des vidéos et des podcasts. Le comédien Océane annonce son changement de genre. Anciennement connu sous le nom d'Océane Rosemary, il explique avoir pris la décision de s'affirmer tel qu'il est, un homme trans, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et oui, tu n'es pas seul. Un message d'espoir aux personnes LGBT du monde arabe. En donnant la parole à des militants gays, lesbiennes, bisexuels ou transgenres, l'ONG Human Rights Watch veut briser l'isolement et mettre en valeur les progrès enregistrés dans la région. Et puis, la promotion homosexuelle est interdite en Haïti. Le Sénat haïtien a voté une loi l'année dernière qui interdit le mariage aux couples de même sexe ainsi que toute promotion de l'homosexualité à travers le pays, marquée par une profonde emprise religieuse. Le texte voté l'année dernière précise que les auteurs, co-auteurs et complices d'un mariage homosexuel en Haïti risque une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 500 000 gourdes, soit un peu plus de 6 700 euros. Combien de dollars ça fait ? Cameroun, notre reporter a enquêté à Yaoundé. Dans ce pays d'Afrique centrale, l'homosexualité est un délit, une honte, un danger mortel. Insultés par leurs voisins, rejetés par leur famille, emprisonnés, condamnés par l'État, ces hommes et ces femmes vivent un calvaire. Oui, c'est au Cameroun que ça se passe. Certains ont choisi de se battre pour faire reconnaître leurs droits. En 2016, le directeur exécutif de Alternative Cameroun, M. Franks Mananga, a été convoqué par les services de la Société immobilière du Cameroun, appartenant aux sociaux de l'État, pour une affaire de le concernant. Eh oui, arrivé au bureau de la SIC, il est informé qu'une plainte a été portée contre lui par des voisins pour homosexualité. En effet, les services de cette société immobilière auraient été saisis par des voisins de M. Mananga au motif qu'il cohabite maritalement avec un homme et que par ailleurs, les seules visites privées qu'il reçoit ne sont que masculines. Incroyable. Ses voisins auraient donc demandé à cette société immobilière d'expulser M. Mananga afin de préserver l'ordre moral au Cameroun, car cette manière de vivre pourrait contaminer les enfants. Donc la société immobilière somme M. Mananga de libérer les lieux dans un très bref délai sous peine de saisir la police à la fin de le faire. De libérer les lieux dans un très bref délai sous peine de saisir la police à la fin de le faire sortir par la force. Incroyable, mais vrai, madame, monsieur. Quelles sont vos réactions ? Bienvenue à Fierté Toronto 2018 sur Popourri, un moment de grande liberté pour ceux et celles qui vivent les LGBT-phobies au quotidien. Et hommage à tous les militants LGBTQIA ici à travers le monde. Dans un instant, le tirage au sort.
Football.
Football.
Voilà, c'est parti. Déplaceront le ballon.
Et oui, Coupe du Monde de football 2018 en Russie sur RFI Sport. Qui sera le vainqueur? Que la meilleure équipe gagne. Coupe du Monde 2018 en Russie.
C'est le football.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Gia avec le département de français, campus Saint-Gia avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.fm ou www.potpourrishow.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Bonjour, mon nom est Madou Lamotte. Je suis drag queen, diva, superstar. Comment j'ai commencé ma carrière, moi, c'est au bar Lézard, Poudre, j'étais cigarette girl. Je savais pas du tout comment faire de la scène, je regardais les autres travailler puis j'apprenais sur le tas, comme on dit. Je voulais me démarquer des autres drag queens qui sont trop belles, trop sexy. Moi, je joue plus la carte de la glamour queen, là. Combien de costumes que j'ai? J'en ai à peu près 500. 75 perruques, 50 paires de souliers, 775 bijoux. On est très ouvert, Montréal. On est une ville très gay, happy, de bonne humeur. Yeah, 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 party, party. Mais je suis très heureuse de voir qu'un grand villagier, parce que je peux travailler à tous les jours dans une atmosphère de fête et de tolérance extraordinaire. Montréal est sexy parce que les gens qui l'habitent sont sexy. Les Montréalais sont beaux. Les gens aiment la mode ici. Les gens aiment s'habiller pour sortir. Et qu'on se le cache pas, Montréal est le secret le mieux gardé de l'Amérique pour la beauté. Mascara pendant l'événement diversité. On fait ça chaque année, c'est un gros happening. C'est le happening, c'est le jour de l'an de la drag queen. Fait qu'on est une centaine sur ce spectacle-là. 3 heures incroyables à chaque été, une fois par année malheureusement, mais c'est la meilleure 3 heures de l'été. Il y a du talent ici, il y en a en masse. Énormément. Les Montréalais, c'est des gens extraordinaires. Ça vous donnera le goût peut-être même de venir nous voir, j'ai l'impression.
On peut pas être noir et gay dans la communauté noire. On se dit, ça se peut pas, les deux ensemble peuvent pas aller ensemble. À cause, justement, de l'importance de certaines valeurs, on oublie qui on est. On peut pas relier les deux. On peut pas relier le fait qu'on soit noir au fait qu'on est homosexuel.
Mon île est très chrétienne. La plupart du temps, lorsque les gens parlaient de l'homosexualité, c'est sûr, la première chose qui sort, c'est que c'est prohibé par la Bible. Que c'est pas normal, on dira, que c'est la norme, c'est hors norme.
Chez nous, les Camerounais, être homosexuel, c'est comme un sacrilège. Être homosexuel, ça veut dire que tu vas te faire mettre en prison, ça veut dire que tu vas te faire battre, tu vas te faire tuer. Pour ce qu'ils disaient, cette maladie de blanc, c'est pas quelque chose qui arrive chez nous. Ce n'est pas une chose acceptée et acceptable chez un Camerounais.
« Le moment le plus important de la journée est arrivé. Est-ce que vous êtes à l'écoute, mesdames, messieurs? Dans un instant, je vous laisse avec DJ Sébastien, le DJ qui va vous faire danser tout au long de cette émission. Nous l'écoutons avant de passer à notre tirage au sort. Qui sera l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante, madame, monsieur, de cette bouteille de champagne Veuve Clicquot? Et oui, appelez-nous si vous avez participé, même si vous ne gagnez pas. 86 946 7000 ou encore popourri@cut.fm. Eh oui, la question. Vous connaissez pas la question? Trop tard, madame, monsieur, c'est trop tard, trop tard. Et oui, voici la question. Savez-vous ce que veut dire le sigle LGBT ou LGBTQIA? Alain, Gilles, vous êtes là? Mo, Annick, Anaïs, Khaled, Gertrude, Iman, Chantal et Jo ou Melissa. Melissa aussi a participé. Toute l'équipe vous remercie d'avoir répondu à notre question. Résultat et tirage sort dans un moment. Et voici la réponse de la question. Le sigle LGBTQIA est l'acronyme pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, bispirituelles, transgenres, transsexuelles, queers, en questionnement, intersexuelles, asexuelles et alliées. Monsieur le professeur, le tirage s'il vous plaît. Prenez une enveloppe. Et le gagnant ou la gagnante, Anaïs Comarmont est notre gagnante. Oh, bravo. Et nous remercions encore une fois Alain, Gilles, Annick, Herman, Khaled, Gertrude, Iman, Joe, Chantal et Umelissa d'avoir participé à notre jeu concours. Et bravo à tous ceux et celles qui nous ont envoyé des messages tout au long de la semaine. Bravo, bravo encore une fois. Yeah. Émission spéciale à Pau-Pourichaud aujourd'hui, dans le cadre des manifestations de fierté Toronto 2018. Et bravo à Anaïs Comarmont, qui est l'heureuse gagnante de cette bouteille de champagne Veuve Clicquot. Et oui, Franco Queer vous invite, madame, monsieur, à célébrer la fierté en français à Toronto avec l'organisme Franco Queer. Et cet organisme vous propose plusieurs événements de rassemblement par et pour la communauté LGBTQIA francophone de Toronto. Il y a tout un programme détaillé que vous pouvez voir, vérifier sur le site www.francoqueer.ca. D'ailleurs, Franco Queer sera également présent à l'événement organisé par la Fondation Tricolore de Toronto et le Consulat Général de France et plusieurs organismes français, la Bastille Day. Eh oui, alors aujourd'hui, c'est la dernière journée pour assister ou pour visiter cette foire communautaire, la rue Church. Franco Queer vous donne rendez-vous, c'est au nord de Church Wellesley. Jusqu'à 17h30 aujourd'hui, vous pouvez aller les voir, saluer et discuter avec les membres de Franco Queer. Le 28 juin, Franco Queer vous invite à son apéro, une occasion de se retrouver, de se rencontrer dans une ambiance francophone. Une grande tombola vous permettra de remporter de nombreux cadeaux. Rendez-vous le 28 juin au bar boutique, boutique bar 506 506 rue Church à Toronto à partir de 17h30. Le 6 juillet, il y aura une pièce de théâtre intitulée Ex-Hill, écrite et mise en scène par l'agence artistique Ekin. Cette pièce de théâtre engagée parle avec une pointe d'humour de l'immigration des réfugiés LGBT africains au Canada. La représentation sera suivie d'une discussion avec des acteurs, des actrices, metteurs en scène et des membres de Franco Queer. Et vous pouvez envoyer un message à Franco Queer. Ils cherchent toujours des bénévoles ou des acteurs, des actrices, comédiens. info@francoqueer.ca. Le 19 juillet, consultation communautaire. On vous invite à être des acteurs au sein de votre communauté et on vous invite à contribuer au développement du plan stratégique de Franco Queer. Lors de cette rencontre, le 19 juin prochain, les membres de la communauté LGBTQIA francophone de la région de Toronto auront l'opportunité de s'exprimer sur ses besoins en matière de services et des activités dans la communauté. Un buffet léger, repas léger, sera servi aux participants et les portes s'ouvrent à 17h30. Au 519 rue Church, 519 Church. Et oui, cet événement est gratuit et on vous invite de vous informer ou encore réserver vos places en envoyant un message à info@francoqueer.ca. Et toute l'équipe de Franco Queer vous souhaite une très très joyeuse fierté. Droit LGBTQIA. Qu'en est-il dans le monde? Voilà 30 ans que la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle se bat pour faire valoir ses droits. Si elles ont connu une avancée indéniable, la tolérance et l'égalité ne sont pas pour autant devenues universelles. État des lieux des droits dans des LGBT à l'échelle mondiale. Les résultats d'un sondage montrent que plus de la moitié des Canadiens, soit 59%, sous-estime le nombre d'États qui criminalisent l'homosexualité. Cela déteint sur le thème de la signature visuelle de la campagne annuelle de la Fondation Émergence à Montréal, visant à rappeler au grand public qu'encore 72 États du monde criminalisent l'homosexualité. 72 États. La religion reste un socle solide pour le sentiment anti-homosexuel. Les prêches homophobes sont légion en Afrique, mais aussi en Europe. Aucun des trois monothéismes ne reconnaît d'ailleurs l'union entre personnes de même sexe. Si le pape François est à l'origine d'un certain infléchissement de l'Église catholique, vous savez, vous vous souvenez de cette fameuse phrase « Qui suis-je pour juger ?» Donc, le pape fait davantage figure d'un vœu pieux plutôt d'un vrai schisme dans le rapport de la religion avec l'amour homosexuel. De par leurs différences, les homosexuels sont des boucs émissaires, tout trouvés des problèmes de la société, voire des cibles faciles, pour souder un peuple par un sentiment de haine partagée. 120 pays aujourd'hui protègent ou donnent une existence légale aux homosexuels et à leurs familles. En 1990, il n'était que 77. Le quasi-consensus international sur cette question est un indicateur fort sur le chemin des droits humains. Maintenant, je vous invite à un petit détour escale à l'île Maurice. Pays paradisiaque, mais malheureusement, il y a eu des manifestations anti-gays qui ont empêché la tenue de la 13e édition de la Gay Pride le 2 juin dernier à Port-Louis, à l'île Maurice. Qualifiés pudiquement d'opposants, ces hommes qui brandissaient des pancartes « L'homosexualité et la bestialité » et scandaient « Allah Akbar » étaient menés par un islamiste tristement célèbre dans l'île depuis plusieurs années. Javed Mitou, le prêcheur radical, est en effet régulièrement épinglé par la presse locale. Les autorités à l'île Maurice ont été vivement critiquées pour ne pas avoir arrêté ce prédicateur dangereux venu empêcher la Gay Pride le 2 juin dernier, car le Mauricien était déjà dans le viseur des autorités locales, mais également dans celui d'Interpol, qui l'accuse d'avoir voulu rejoindre l'État islamique en Syrie. Pauline Werner, notre amie porte-parole du collectif Arc-en-Ciel, organisateur de la Marche à des Fiertés, qui a plusieurs fois passé à cette émission, a reçu plus de 160 messages de menaces de mort. Des menaces qu'elle continue de recevoir aujourd'hui. Elle a porté plainte, mais la police refuse de lui donner une protection. L'île Maurice a reçu durant les dernières semaines écoulées plusieurs menaces d'attaque et alertes à la bombe. Les Mauriciens sont très inquiets de leur sécurité. Avant de passer à un extrait d'un entretien que Pauline a donné à un de nos médias partenaires, elle vient de m'envoyer un message. Elle est actuellement en France, elle est d'origine française d'ailleurs, et elle me dit « Bonjour Eric, les menaces continuent d'arriver et les enquêtes se poursuivent. Les choses semblent commencer à être prises au sérieux par le gouvernement mauricien, mais je ne sais pas plus car je suis actuellement en France. » Enfin, depuis le 17 juin, elle est en France. Voici un extrait d'un entretien d'un de nos médias partenaires avec Pauline Werner, porte-parole du collectif Arc-en-Ciel, organisateur de la Marche des Fiertés à l'île Maurice.
Est-ce que vous pouvez nous résumer? Alors, dites-nous d'abord qui vous êtes par rapport au mouvement ou par rapport à l'ONG. Quelles sont vos responsabilités?
Je suis Pauline Werner. Pendant plusieurs années, j'étais directrice du collectif Arc-en-Ciel et puis j'agis en tant que consultante depuis plusieurs mois. Et donc, j'ai participé à l'organisation des événements de fierté qui ont eu lieu ce week-end et du workshop qui avait pour but de formaliser la coalition de l'océan Indien pour les associations LGBTI.
Donc, Pauline, vous avez une expérience déjà éprouvée de ce type d'opération, de manifestation. Qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier qui ne se serait pas encore passé les années précédentes?
Alors, c'était la 13e marche de fierté organisée par le collectif Arc-en-Ciel, c'est-à-dire que depuis 2005, lors de la première année, Amnesty International et le collectif Arc-en-Ciel avaient organisé une première marche de fierté, donc à Rosine. Et puis, donc pour cette année, pour la 13e édition, nous avions invité les délégations des pays voisins de l'océan Indien, dont la délégation de la Réunion, organiser la première marche inter-île de l'océan Indien. Cette année, à la différence des autres années, il y a eu de nombreuses protestations avant l'événement, ce qui est tout à fait compréhensible étant donné les sensibilités religieuses de chacun, les sensibilités personnelles de chacun. Il est évident que tout le monde ne peut être d'accord sur des questions si sensibles que sont l'homosexualité, la transidentité. Nous savons que c'est un travail de longue haleine. Toujours est-il que ce qui s'est passé depuis plusieurs jours, en amont de l'événement et au moment de l'événement, est assez alarmant par rapport à l'avenir. C'est-à-dire que donc les jours auparavant, il y a eu plusieurs menaces dirigées vers le collectif arc-en-ciel, l'association, mais également les personnes LGBT que l'organisation représente. Des menaces également ont été envoyées à ma destination, étant donné que j'étais la personne la plus on va dire, publique par rapport à l'organisation des événements. Et puis, différents rebondissements ont eu lieu, contrairement aux autres années, c'est-à-dire qu'une interdiction avait été évoquée pour des raisons de sécurité le 29 mai, quelques jours avant la tenue de l'événement, et puis le 1er juin, donc la veille au soir, un changement d'avis a eu lieu de la part des services de police allaient être là en nombre, et puis le lendemain, au moment de marché, nous avons fait face à un rassemblement de 400 personnes sur la place d'armes, donc à Port-Louis, là où aurait dû passer le cortège, et rassemblement qui ne pouvait visiblement pas être contrôlé par les effectifs de police présents ce jour-là. Donc voilà ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le rassemblement d'opposants n'avait visiblement rien de pacifique, et nous n'avons absolument pas pu quitter le Godon Waterfront qui nous permettait de garder en tout cas les personnes en sécurité avec la police qui était présente sur place, avec la sécurité privée et avec les agents de sécurité du lieu. Nous avons dû capituler, nous avons dû en tout cas prendre cette décision pour des raisons de sécurité et des actions qui vont être prises. Nous rencontrons mercredi les représentants diplomatiques et notamment lors d'une réunion organisée par l'Union européenne. Il y a plusieurs actions que nous allons bien sûr mettre en place, mais toujours est-il que le constat est assez grave et alarmant pour la suite.
Vous avez vous-même été menacé ?
Oui, j'ai moi-même été menacé. Je ne compte plus, mais j'en étais à 151 menaces à samedi.
Le contenu de ces menaces, c'est quoi ?
Disons que le contenu des menaces, ce sont des menaces de mort. Ce sont des menaces de mort qui sont adressées personnellement, qui me visent directement. Ce sont des menaces qui me sont destinées, mais qui représentent une menace pour l'ensemble de la communauté. Nous en sommes bien conscients et ce n'est absolument pas ce qui nous fera reculer. Nous les prenons bien sûr au sérieux, mais c'est absolument pas ce qui nous fera reculer. Et au contraire, ça nous amène à dire que nous avons définitivement besoin d'un soutien un peu plus large pour pouvoir faire avancer, pour pouvoir faire évoluer les choses positivement.
Alors,
émission spéciale dans le cadre de Fierté Toronto 2018, un moment de grande liberté pour ceux et celles qui vivent les LGBT-phobies au quotidien. Émission spéciale, Popourri Show vous souhaite la bienvenue, madame, monsieur. Des milliers de personnes vont défiler, je vous rappelle, aujourd'hui, à Toronto pour la marche à des fiertés LGBTQIA. Et nous allons passer maintenant à un moment assez intéressant. Il y a 5 ans, Mathilde Daudet s'appelait encore Jean-Pierre Daudet, arrière-petit-fils d'Alphonse Auteur, notamment des lettres de Montmoulin. Photographe, grand reporter et producteur pour la télévision, Mathilde Daudet a vécu 60 ans homme et a eu plusieurs compagnes et aussi 4 enfants. Mathilde était l'invitée du magazine de la santé, magazine très populaire en France, en 2016, et elle nous parle de son roman « Choisir de vivre » aux éditions Carnet Nord, qui a signé sa libération, celle d'être autre.
Mathilde Daudet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous venez d'écrire un livre absolument superbe, « Choisir de vivre ». C'est chez Carnet Nord. Vous racontez votre histoire. Il y a 5 ans, vous vous appeliez Jean-Pierre Daudet, photographe, grand reporter, producteur pour la télévision. Vous avez vécu donc 60 ans dans la peau d'un homme, dans le corps d'un homme. Vous avez eu plusieurs compagnes, vous avez eu 4 enfants. Et aujourd'hui, donc, vous êtes femme. Je précise juste pour ceux que votre nom est bien connu, vous êtes l'arrière petite fille d'Alphonse Daudet, auteur des lettres de Montmoulin, pour les jeunes qui ne connaissent pas ça. Alors, vous avez raconté évidemment votre histoire, mais vous avez choisi de le faire pas vraiment sous forme d'autobiographie.
Non, je l'ai fait de manière un peu romancée parce que je voulais exprimer cette dualité que j'avais en moi. Et pour le raconter le mieux possible, j'ai préféré me créer une jumelle qui, au fur et à mesure, prend le pouvoir sur moi, homme, du début de ma vie. Et donc, c'est cette lutte permanente, cette espèce de balancier pendulaire qui oscille de manière irrégulière au démarrage, plus du côté homme que du côté femme. Et puis, peu à peu, Mathilde chope le balancier, elle garde longtemps pour elle. Et finalement, elle me fait dégager de ce corps qui n'était pas le mien.
Mais si ce n'est qu'on découvre à la fois que vous êtes... Vous étiez effectivement un petit garçon, tout à fait garçon, et en même temps, qui avait cette tendance à vouloir parfois se déguiser, à aimer les tissus féminins, à aimer toutes ces choses-là, assez tôt quand même.
Oui, c'est tôt. C'est-à-dire que mon plus lointain souvenir de ça, c'est 5 ans. C'est-à-dire que 5 ans, j'étais plus attiré vers les symboles féminins que vers les symboles masculins. Et c'est à partir de ce moment-là, parce que je suis surprise en portant un sous-vêtement de ma grand-mère que j'avais été... arraché au fil, et que je prends conscience d'abord que c'est interdit. Et donc, il faut que je sois un homme avec toutes les caractéristiques de l'homme. C'est une espèce de contradiction avec laquelle il faut vivre, qui est une souffrance permanente au final. Et c'est pas facile. Et au fur et à mesure, on lâche prise, parce qu'on a besoin de la féminité, parce qu'elle est vous. Et c'est quelque chose que j'ai eu... du mal à faire, dans la mesure en plus où j'étais tenu par des règles d'abord d'éducation et ensuite par des règles religieuses qui, comme toujours, sacralisent les règles. Et c'est encore plus difficile d'en sortir.
Alors...
Bonjour. L'homosexualité est-elle toujours un tabou ? Oui, si l'on en croit le nombre de jeunes qui se suicident lorsqu'ils découvrent qu'ils ont une sexualité différente.
On ne se réveille pas un matin en se disant on est homosexuel. C'est progressivement au collège, puis au lycée, mais d'abord au collège. On voit que les copains commencent à être attirés par les filles, à en parler. Et moi, ils m'en parlaient, mais je me disais, mais je suis pas... Enfin, j'aime beaucoup les filles, mais ça m'intéresse pas de cette manière-là. Et progressivement, je me suis aperçu que les garçons, peut-être, m'intéressaient un peu. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. Donc je me dis, bon, ben, voilà, ça va venir après. Les filles, il n'y a qu'à patienter un peu. Et puis ça vient pas et il faut y renoncer. Quand on se l'avoue, on se sent vraiment très seul. Parce que tout à coup, il y a vraiment une angoisse de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais le dire à mes parents, à ma famille, à mes amis? Comment je vais faire? Comment je vais l'annoncer? Et s'ils l'acceptent mal, qu'est-ce qui va se passer? Mais aussi, tout simplement, la question de se dire, mais ça peut paraître idiot, mais au lycée, on voit tous les amis qui commencent à avoir des petites copines, tout le monde sort, tout le monde s'amuse, tout le monde va danser. Et moi, je me situais là et je me disais, mais comment je vais faire pour me trouver un petit copain, pour rencontrer d'autres jeunes comme moi? Quand j'ai commencé à m'avouer homosexuel, tout à coup, c'est un peu comme si mon avenir devant moi, il avait disparu. Ça a été vraiment une période où j'étais... dans l'ensemble, déprimé, j'avais des idées assez noires, assez malsaines. J'ai jamais vraiment sérieusement pensé au suicide. Mais c'est vrai que c'est une idée qui revient sans arrêt. Et à une époque, même dès que quelque chose allait mal, je me disais, mais si ça se passe mal, au pire, je peux me suicider, c'est pas grave.
Pendant cette période difficile, Louis se raccroche aux héros des séries télé comme Buffy contre les vampires.
Tu crois que j'ai choisi d'être comme ça? Tu as la moindre idée de la solitude que c'est, du danger et des risques? Non, tout ça est de la folie, tu as besoin d'aide. Je ne suis pas folle.
C'est ça, elle me parle, parce qu'après coup, c'est vrai que je me suis bien reconnue dans ce que dit Buffy, c'est-à-dire que même si elle avoue à sa mère qu'elle est la tueuse de vampires, toute la partie où elle lui dit, déjà, elle insiste sur le fait qu'elle ne l'a pas choisi, que c'est quelque chose qu'elle doit vivre et qu'elle doit assumer, on dirait qu'elle est en train de dire à sa mère qu'elle est homosexuelle par moment.
Si tu passes le pas de cette porte, sache que tu ne reviendras pas.
J'ai décidé de le dire à ma mère d'abord. J'ai un peu tourné autour du pot, j'avais préparé plein d'arguments, j'avais presque écrit un discours, j'avais presque des notes à lire, bon, je les ai pas sorties, et au moment de lui en parler, je me suis retrouvé vraiment bloqué, je savais pas comment lui dire ça, alors je lui ai dit, j'ai quelque chose à t'annoncer, et c'est vrai qu'au moment où je lui ai dit ça, je me suis dit tout de suite, elle est au courant déjà, elle s'en doute, parce que elle a eu... Son expression a complètement changé, elle a regardé son assiette, puisqu'on était à table, et je me suis dit, elle sait, mais en même temps, je savais pas. Je me suis retrouvé bloqué. Et finalement, c'est elle qui a fini par me demander si j'étais amoureux d'un garçon. Et donc, je lui ai dit oui. T'as compris le truc. Je suis pas amoureux d'un garçon en particulier en ce moment, mais j'aime les garçons. Et elle a été triste forcément, mais je pouvais pas lui demander de l'accepter en 5 minutes. Ce qui l'a beaucoup inquiété, c'était la manière dont elle allait annoncer à mon père. On s'est dit que le mieux, c'était peut-être qu'elle lui en parle. Et le lendemain, on a discuté, il est venu me voir, et c'est vrai qu'on en a bien parlé. Et ce qui lui faisait de la peine, c'était que je n'en ai pas parlé. Ce n'était pas un reproche du tout, c'était plus qu'il s'est rendu compte que même si je leur en avais parlé, il ne pouvait pas m'aider à ce moment-là. Et ça lui a fait de la peine de découvrir en fait, tout à coup que j'avais grandi et que j'avais dû vivre ça tout seul.
Pour sortir de sa solitude, Louis passe beaucoup de temps sur Internet. C'est ainsi qu'il a rencontré Maxime sur un forum de séries télé. Et ils sont devenus amis.
CIUT 89.5 Toronto.
Est-ce qu'avant tu sentais pas... Moi, je sais qu'avant, je me demandais comment j'allais réussir à gérer ça, gérer mon avenir et tout. Je me disais, mais comment je vais rencontrer d'autres homos, et même pas forcément rencontrer mon petit copain, mais rencontrer d'autres homos, d'autres gens comme moi, pour réussir à pas me retrouver à 30 ans, célibataire, éventuellement le meilleur ami des filles qui étaient au courant, mais qui rentrent tout seul chez soi, le soir.
Moi, j'ai la même chose, mais bon, moi, c'est plus à 50 ans ou 60. Ça ne change rien, mais c'est vrai que j'ai l'image de genre quelqu'un de âgé et seul et tout ça. Donc, on n'a pas vraiment dans la société l'image de couple homo qui dure vachement longtemps et tout ça. Et comme moi, j'ai vachement encore des réflexes de couple hétéro qui restent longtemps ensemble, le mariage et tout dans la tête, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut m'inquiéter. T'as pas ce genre d'image dans la tête?
Non, plus tellement. Mais moi, quand je disais 30 ans célibataire, c'était vraiment l'image du célibataire de 30 ans dans le placard, qui s'assume pas, qui éventuellement de temps en temps s'autorise à aller sur Internet, mais c'est tout. C'était vraiment le truc glauque par excellence. Ça me faisait peur de m'imaginer à 30 ans toujours dans le placard et autres. Et finalement, à cette époque-là, je n'imaginais pas faire mon coming out avant 25 ans, puis finalement je l'ai fait parce qu'à un moment, il y a tout qui s'accélère en quelque sorte.
Eric, Verdi, quel type de réaction justement ont les parents par rapport à ça? Il y a des typologies comme ça très particulières?
Oui, il y a des études qui montrent qu'il y a trois types de réactions. En fait, il y a une réaction qui est plutôt celle des mères, mais c'est vraiment général, hein, il faut pas, ouais. Qui est une réaction de culpabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai raté. Il y a un deuxième type de réaction qui est plutôt celle des pères, mais encore une fois c'est une généralité, qui est tout d'un coup mon enfant devient étranger à moi, c'est plus la chair de ma chair. Donc avec des choses comme
un rejet,
voilà, hein, mais qui est une réaction intérieure, hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qui va se passer. Et il y a un troisième type de réaction que je trouve extrêmement intéressante, justement quand on va vers l'acceptation, c'est que c'est pas si étranger et c'est pas la faute, c'est-à-dire ça me parle aussi, l'homosexualité à moi en tant que parent, elle me parle aussi, car la bisexualité, c'est quelque chose qui traverse toute la nature humaine. Tout, chacun d'entre nous, à l'adolescence en tout cas, a connu des désirs, des choses qui ont fait que, avant qu'il y ait un choix d'orientation sexuelle, on s'est posé des questions.
Mais alors, est-ce qu'il faut inciter les enfants à dire, à en parler, ou au contraire, est-ce qu'il faut respecter peut-être leur envie de secret?
Ce qui est important, je pense, c'est de donner des signes d'ouverture en mettant par exemple des affiches ou en communiquant des numéros de téléphone de ligne d'écoute pour que le jeune se sente en confiance et pour qu'il puisse aller voir calmement une infirmière scolaire ou l'assistante sociale ou ses professeurs qui peuvent également être des référents. Et puis je pense aussi qu'il faut qu'on arrête de dire à un garçon est-ce que tu as une petite copine et à une fille est-ce que tu as un petit copain. Il faut qu'on dise, que tout le monde puisse dire, parents, adultes, enseignants, etc., est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie, est-ce que tu es amoureux de quelqu'un. C'est pas compliqué à dire, et ça veut simplement dire, si tu me dis que tu es homosexuel, il n'y a pas de problème.
Football.
Coupe du monde de football 2018 en Russie sur RFI Sport. Qui sera l'équipe gagnante? Que la meilleure gagne. Coupe du monde Russie 2018 sur RFI Sport.
C'est le football.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Hey, bonjour, comment ça va?
Dans la majorité des cas, les transsexuels vivent seuls. La sortie du placard entraîne généralement la séparation ou le divorce des couples.
Bon, ton père, là, calme-toi.
Marié pendant 17 ans, André reçoit la visite de son épouse Linda et de leur fille de 14 ans.
Je le trouvais beau, il était sensuel, il était doux. Ouais. Ouais. Il embrassait bien French. Ben. Il doit French encore bien, mais là... Je ne veux plus.
On a une complicité qui est inexplicable. Il y a quelque chose qui s'est développé en 17 ans, puis... c'est sûr que, bon, il fait longtemps qu'elle sait que je m'habille avec son linge, etc. Mais elle m'a accepté. Moi, je dis qu'elle m'a sauvé la vie, la pause.
C'est sûr que quand j'entends quelqu'un dire « Ben, t'es donc bien belle », c'est sûr que moi, ça me fait drôle. Pour moi, André, là, c'est... C'est pas comme... Je l'accepte pas. C'est plutôt que je la vois pas encore comme ça. Pour moi, là, oh, t'es beau, t'es bien habillé.
Le couple entretient d'excellentes relations et partage la garde de leur fille.
Je trouve que c'est bien que André lui permette de l'appeler papa à la maison.
Ah, toujours.
Parce que
jamais.
C'est son père.
Jamais
j'appelle. C'est pas sa mère, c'est moi sa mère.
Il reste le mot papa, là. Si tu enlèves l'image puis tu ne veux plus que ce soit papa, c'est quoi? J'ai plus rien, là. Fait que non. Les gens comprennent. Ça, c'est un message qu'il faut dire aux transsexuels, c'est que tu deviens une femme, mais oublie que tu ne peux pas, tu seras toujours le père de tes enfants. Alors ça, c'est sûr, c'est les dernières images qu'elle va avoir de son père, par exemple.
Puis moi, quand je regarde ça, ben, je me dis...
J'avais 35 ans. J'avais 35 ans, à peu près.
Ça n'a pas de bon... Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. C'est comme, ben, regarde, c'est mon chum, là, puis... Tu sais, c'est parti. Ça ne reviendra plus.
Fini.
C'est fini. Ça, ben, ça, c'est dur. Mais c'est pas grave, là. Je vais passer au travail.
À celui que j'ai marié, à qui j'ai promis fidélité jusqu'à ma mort,
à cet homme qui était le plus merveilleux, au héros de mes enfants, à ce sourire de fierté, parce qu'il sourit beaucoup. Je lui dis, à lui, je l'aime.
L'homme que décrit Louise dans son poème est son mari depuis 36 ans. Jean-Pierre est devenu une femme en 2007, à l'âge de 60 ans, et s'appelle aujourd'hui Christelle.
T'aimerais-tu mieux que je porte la jupe ou le pantalon?
Oh, moi, je préfère le pantalon. La jupe est trop courte.
Moi, ben, tu sais que moi, j'aime mieux les jupes.
J'ai donné des indices. Ça fait déjà en 79, si on peut dire, juste des indices, des petits indices. Mais elle a pensé que c'était un fantasme, que ça passerait. Fait qu'elle s'est organisée pour dire, ben là, on va lui laisser un peu de chance, puis après ça, bon, on va tourner la page, ça va être réglé. Mais ça n'a pas été le cas. Je pense que moi, là, regarde, okay, s'envole. Plus la vie avançait, plus je sentais en moi la femme qui voulait sortir, qui était tannée d'être enfermée dans ce monstre de corps-là.
Les indices qu'il me donnait, je les percevais pas comme indices, parce que pour moi, il y a 30 ans, même le mot transsexuel n'existait même pas dans mon vocabulaire. C'est un choc pour moi, pour mes enfants, puis on n'a eu aucun support là-dedans.
Sa famille bouleversée, il perd ensuite son emploi d'enseignant en éducation physique après 30 ans de service. C'est à ce moment-là qu'il décide de prendre les grands moyens pour concrétiser sa nouvelle identité.
Quand j'ai su la date de l'opération, j'ai pas eu comme certains une effervescence. Moi, c'était normal que ça arrive. J'étais rendu, là, moi. Les opérations, j'en ai subi trois. La principale, la vaginoplastie, c'est la transformation des organes génitaux. Ensuite, on monte plus haut, ben, c'est d'aller au niveau des seins. Comme j'ai déjà entendu quelqu'un qui s'est trouvé ça comme blague, il dit, c'est changer les boules de place. Mais ce sera... C'est-à-dire que j'ai fait faire les seins. Puis après ça, j'ai demandé la pomme d'Adam. Puis après, ben, c'est la dilatation. C'est pour maintenir le vagin ouvert suite à l'opération. C'est un genre de pénis chirurgical ou thérapeutique qu'on se met là, à l'intérieur de différentes grosseurs pour garder le vagin à la grosseur normale, comme une femme.
Il aurait beau s'appeler comme il voudra, nous autres, il va toujours rester la personne qu'on connaît, qu'on aime, qui est à l'intérieur de lui. Puis cette personne-là, ben, c'est Jean-Pierre, c'est pas Christelle.
Moi, j'ai toujours pensé qu'on pourrait l'éliminer, que le mariage, c'était la fin de la transsexualité, que ça s'en irait. C'est parti que quelques mois, c'est-à-dire, après ça, c'est revenu, c'est tout. De fois en fois, le retour est toujours plus douloureux.
Je suis pas à l'aise de tenir par la main mon mari habillé en femme. Puis encore moins depuis qu'il est opéré, parce qu'il est vraiment transformé en femme. Puis je suis pas à l'aise avec ça, mais j'ai de la peine, je m'ennuie de mon mari, je m'ennuie de mon chum. M'ennuie de mon amant. Puis ça, je vais m'en ennuyer, je pense que jusqu'à mon dernier souffle.
Le regret, c'est pas de l'avoir fait plus tôt. Okay. Si on l'avait su, mettons, avant de me marier, je me serais jamais marié. C'était su d'avant. Ça, c'est dans le regret. Mais d'une autre façon, ce regret-là est amoindri parce que je pense aux quatre merveilleux enfants que j'ai eus. Puis là, j'ai une petite fille aussi. Je me dis, ben, si ça n'avait pas été marié, j'aurais pas eu tout ce bonheur-là que j'ai eu. J'aurais pas passé toutes ces années-là de bonheur non plus.
C'est assez féminin de se promener avec une ligne imaginaire, pas trop des grands pas. Ça, c'est parfait, parfait, parfait. Donc, une ligne
imaginaire... Un soir, chez vous, là, fermez-vous les yeux et dites-vous que demain matin, là, je vais me réveiller dans le mauvais corps, dans le corps qui ne m'appartient pas. Essayez de voir comment on peut vivre cette situation-là. Puis on ne comprend pas toujours, ça prend du temps avant de le comprendre. Juste ça, ça serait peut-être une chose qui pourrait peut-être enlever un peu les préjugés.
C'est pas du jour au lendemain, j'ai dit, oh ben moi, je suis un transsexuel. T'sais, c'est pas le même, là. C'est atténué que ça. Puis, le seul choix que tu as là-dedans, c'est de le dire au monde ou de le garder toute ta vie.
Je ne changerais rien à ma vie. Si on me dirait, Marie-Marcelle, t'as à revivre une autre vie, tu veux-tu naître homme ou femme? Je dirais, non, laissez-moi naître qui j'étais. Parce que la femme que je suis, pourquoi j'aurais pas le droit d'être heureuse et épanouie? Ma différence fait pas en sorte que... Non, c'est pas un handicap pour moi, ma différence. Pas du tout.
Venez me voir.
Je peux dire une chose. En tout cas, moi, je vis un peu au bonheur. Je vis des moments exaltants, des moments merveilleux en tant que transsexuel. Et alors, ceux qui veulent me parler et m'aimer, les bienvenus. Peut-être les bienvenus.
Et oui, bienvenue madame, monsieur, à la Fierté Toronto 2018, émission spéciale en hommage aux militants LGBTQIA. Et oui, et bravo encore à tous ceux et celles qui ont participé à notre émission. Vous pouvez aller sur le site de Franco Queer pour avoir tous les détails des événements à venir. www.francoqueer.ca. Ne pas oublier, le Consulat Général de France à Toronto vous donne rendez-vous pour la Marche des Fiertés des 14h aujourd'hui qui démarre. 14h, je répète, dans le coin de Church et rue Bloor. La rue Bloor et la rue Church, ou dans le coin de la rue Young et la rue Bloor, si vous préférez. Et oui, nous serons là sur place. Il fait chaud et un soleil de plomb là où je suis. Je ne sais pas où vous êtes. Lexi, une jeune américaine de 21 ans, raconte sur Twitter comment sa grand-maman l'a soutenue quand elle lui a annoncé qu'elle participait à la Gay Pride de Washington DC. C'était le samedi 9 juin dernier. Alors qu'elle se préparait pour aller participer à la Gay Pride, sa grand-mère est entrée dans sa chambre et elle a repéré cette belle histoire. Elle a vu le drapeau bi et elle a dit, la grand-maman qui dit, « Oh, il faut le repasser !» C'est un geste tout simple, mais cela représente tellement d'amour pour moi, dit Lexi. Eh oui. Donc, cette jeune femme avait mis sur le mur une photo de sa grand-mère qui a sorti son fer pour repasser le drapeau froissé. Vous êtes lesbienne, gay, bisexuelle ou transgenre et pensez partir vous installer à l'étranger? Voici la liste des 15 pays qui ont une législation plutôt favorable aux LGBT. L'Argentine, la Belgique, le Canada, bien sûr, le Danemark, la France... l'Islande, l'Irlande, le Luxembourg, Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et la Norvège, l'Espagne, la Suède. D'ailleurs, le mariage entre personnes de même sexe est légal depuis 2009 et la discrimination homophobe est punie depuis les années 1980 en Suède. L'Uruguay, un pays pionnier dans l'inscription légale des droits des personnes transgenres. Bon, savoir, attention cependant, ce classement se base principalement sur la possibilité de se marier et omet les données sur les discriminations homophobes et transphobes. Enfin, certains pays qui ne figurent pas dans le classement de la NBC sont connus pour être très accueillants envers les LGBT, même si la législation a encore des progrès à faire, parmi eux l'Israël, l'Allemagne et la Suisse. Et l'interdiction de la thérapie de conversion par la ville de Vancouver, au Canada, envoie un message clair contre les traitements visant à guérir les gens de leur homosexualité, estiment des militants et experts au Canada. Le soutien unanime des membres du conseil municipal au règlement interdisant les techniques pour tenter de convaincre des personnes de changer d'orientation sexuelle ou d'identité de genre aidera les personnes concernées à rejeter ce type de thérapie, croit le conseiller Tim Stevenson, qui a mené la campagne en faveur de la proposition. Voilà. Et puis, je vous rappelle, principaux faits marquants dans l'histoire des droits LGBTQIA au Canada. En 1969, l'homosexualité est décriminalisée. En 1981, à Toronto, des raids, Bathhouse Raids, mènent à une arrestation de masse. Environ 300 hommes homosexuels sont arrêtés à Toronto. Et à la suite de cet événement, environ 3000 personnes manifestent dans les rues du centre-ville de Toronto pour dénoncer les arrestations. Cette manifestation est le point de départ des défilés de fierté que l'on connaît aujourd'hui. Ça s'est passé en 1981. 1996, discriminer ou harceler sur la base de l'orientation sexuelle est illégal. Selon la loi canadienne sur les droits de la personne, il est maintenant interdit aux organismes fédéraux de discriminer une personne en raison de son orientation sexuelle. En 1998, la Cour suprême du Canada confirme le droit à l'égalité pour les personnes homosexuelles. La discrimination basée sur l'orientation sexuelle est contraire à la Constitution canadienne, loi suprême du pays. 1999, la Cour suprême du Canada décide que les conjoints de même sexe ont le droit de demander une pension alimentaire pour conjoints à la fin de leur relation. La décision pousse les provinces et territoires à réviser leurs lois pour que les couples de même sexe aient droit aux pensions alimentaires, à la garde et aux droits de visite, l'adoption, aux avantages sociaux. Nous arrivons à la fin de cette émission, madame, monsieur. Je remercie DJ Devera, nos amis et médias partenaires, l'Express de Toronto, nos invités et témoins qui ont participé à cette émission, Pauline Werner, bonne chance, Anaïs Comarmont, bravo, et tous ceux et celles qui ont participé à notre jeu concours, entre autres Alain, Gilles, Annick, Herman, Khaled, Gertrude, Iman, Chantal et Joe et Melissa. Toute l'équipe vous souhaite une bonne fête et revenez-nous en la semaine prochaine pour notre émission régulière. Ici Eric Adair, je vous souhaite une bonne fierté. Amusez-vous bien, la modération a bien meilleur goût. Ciao.
beaucoup de food, mais il faut que je t'avoue que j'aimerais faire une pause. M'emmène dans une totale hypnose. Dans ma tête, j'ai cette voix qui me répète. Oh là là, c'est la loca. Oh là là, c'est bonita. Oh là, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Acercate et escouche ça. Oh là là, elle est belle. Oh là là, elle m'emmène. Oh là là, elle est essentielle. Quand je joue avec ses lèvres. Oh là là, c'est la loca. Oh là là, c'est bonita.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk on Funky Fridays. Friday mornings, 6 to 9 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5, Toronto. CIUT 89.5, Toronto.